Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Alex.
Mais merde.
Quoi?
Mais depuis ce matin, je ne m'en sors pas.
Mais de quoi faire?
Mais j'essaye de réserver des places pour le spectacle de Françoise Fabien.
Ah, tu l'as kiffé, hein?
Ah, bien sûr, j'ai adoré, parce que déjà parce qu'elle a dit ça.
Vous êtes une belle équipe, oui. On s'amuse avec vous.
Elle a repéré qu'on était une belle équipe.
Ah,
ça
oui, on est une belle équipe.
Ouais, enfin, même si certains parfois s'envoient des piques, hein, ce qui met une mauvaise ambiance.
Ah bon?
Oui, comme par exemple celle-ci.
Lui, pour ne pas se sentir seul à table, il commande des huîtres. Alex Vizorek.
Sympa.
Oui, bon, ça va. T'as des places, donc?
Oui, non, t'insinues que je fais la conversation avec des huîtres.
Non, personne ne parle à des huîtres, Alex, c'était pour rire.
Oui, eh ben, écoute, on doit pas avoir le même humour. Bah,
tu les as eues, tes places?
Mais non, justement.
Mais pourquoi?
Mais je ne sais pas où elles chantent, en fait.
Enfin, on l'a répété hier sans arrêt.
Oui, mais c'était pas très clair.
Je signale à nos auditeurs qu'une série de concerts sont prévus au Théâtre de l'Œuvre, suivie d'une tournée.
Ah, l'Athénée.
Ah, très bien. Alors, je corrige immédiatement sur ma petite fiche.
Bon, et moi, je me dis donc, c'est à l'Athénée.
Bah oui, puisqu'on l'a dit.
Oui, puisque t'as dit même que t'avais corrigé ta petite fiche.
Et
puis, 10 minutes plus tard...
Et on est très heureux que vous soyez avec nous, Françoise Fabian.
Merci.
Je rappelle aussi que vous serez en concert. Ce sera au Théâtre de l'Œuvre. De l'Athénée.
Non, mais... Il faut se tenir au courant.
Mais je suis tout perdu, moi, avec tout ça.
Enfin, Alex, ça me paraît clair.
Oui, ça te paraît clair. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des places au Théâtre de l'Œuvre et au Théâtre de l'Athénée. Comme ça, je suis sûr.
C'est malin, ça.
Ah bah, je suis pas un idiot.
Mais je sais, mais d'ailleurs j'en parlais l'autre jour avec quelqu'un qui te connaît très très bien.
C'est vrai, qui ça?
C'est une des huîtres avec lesquelles t'as dîné hier soir.
On n'a pas le même humour.
Bonjour la France Inter, bienvenue dans la start-up de la radio publique dont le core business... C'est le rebranding innovant de trois informations. Zizou quitte le Real Madrid après y avoir excellé pendant 3 ans comme entraîneur. C'est beau de partir comme ça, en haut de la vague.
Au revoir.
Le Bénin réclame le retour des œuvres pillées par la France et qui trônent aujourd'hui dans les musées. Plusieurs pays africains font la même demande et aujourd'hui l'UNESCO planche sur cette question à laquelle la France a toujours répondu.
Je ne les vole pas. Je les en reprends.
Ah. Les humoristes étrangers raillent la France autant qu'ils l'aiment et interrogent la différence entre leur pays natal et leur pays d'accueil. Et puis, plus le pays est lointain, plus la différence est forte, non?
Non, tu touches à ma sensibilité. Tu n'es pas du tout qualifié. Tu n'es pas qualifié du tout.
Ah, Michel Gaou, on l'aime.
On l'embrasse.
Lui aussi, il fait partie de ces humoristes qui raillent la France.
Je n'ai jamais raillé la France.
Vous pourrez témoigner, allez-y.
Je le dis sur France Inter. Une belle équipe à vous proposer, figurez-vous, pour terminer la semaine à 17h20. L'homme qui est connu pour ses 3 initiales qui veulent dire vraiment doué en bêtises. C'est VDB, Thomas de son prénom.
Bonjour Alex.
De
bonjour,
quoi
tout
on
monde.
Va parler?
Eh bien écoutez, comme vous le savez, moi mon hobby c'est les lobbies. Et justement, je pensais que c'était important aujourd'hui de se pencher un petit peu sur la question.
Très bonne idée. 17h30, beaucoup de gens se rendent en Suisse pour y mourir. Elle vient en France pour leur parler. C'est Christine Gonzalez. Bonjour.
Bonjour, vous le savez, l'ancienne ministre Simone Veil a désormais sa station de métro et sa place à Paris. Eh bien, dans l'au-delà, ça fait des jaloux. Yves Montand, vous par exemple, vous n'aimez pas du tout cette idée, hein?
C'est démagogue d'une façon insupportable.
Voilà, c'est dit. Gros débat. 17h40, celle qui s'interroge sur tout, au point que le matin, elle passe un bon quart d'heure à se demander dans quel sens elle doit utiliser ce coton-tige. C'est vous, Isabelle Sorrente, bonjour.
Oui, alors aujourd'hui, Alex, Charline, les amis, je vais vous parler de la condition de l'homme moderne.
Oh là là, alors ça
c'est... Je connais
ça. Restez avec
nous. Voilà. Vous n'êtes pas déçus, je le vois.
Et à 17h55, les Kids United se sont séparés. Il reste donc seul sur le créneau de la voix qui n'a pas mué. Frédéric Fromet viendra nous chanter sa chanson.
Allez, je me tourne vers celui qui va ambiancer notre open space. Vous quittez le Bénin à l'âge de 10 ans suite à un coup d'État et vous débarquez à Lagny-sur-Marne. Le choc.
Seine-et-Marne.
C'est pas lui qui a fait le coup d'État, parce que c'est pas clair dans votre...
Où s'installent vos parents. Vous hésitez à devenir prêtre, mais vous optez finalement pour l'humour.
J'opte pour les femmes, surtout.
Ah, très bien, d'accord. Précision utile. Et au milieu des années 80, vous devenez celui qu'on appelle le noir qui imite les blancs. Vous faites de la scène, de la télévision aussi, dans la classe sur France 3. Vous êtes un peu boudé par les médias après un sketch sur Henri Chapier. Vous avez 21 ans à l'époque. Vous rebondissez ensuite au cinéma, en jouant
notamment dans Black Micmac 2 ou dans L'invité surprise de Georges Lautner. Et à partir de 2006, vous remontez sur scène pour notre plus grand plaisir. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Éric Blanc.
Noir.
Oui.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Et nous, on a fait cette blague des inconnus toute la semaine. Sachant que vous arriviez. Éric Blanc, c'est tellement culte.
C'est incontournable.
Évidemment. Merci d'être là avec nous, Éric Blanc. On peut vous voir au théâtre de la Gaîté Montparnasse, dans la pièce qui s'intitule La tête dans les étoiles d'Axel Marine et Catherine Bauer. Mise en scène d'Axel Marine et Alex Vizorek est allé vous voir.
Déjà, on est très content de vous revoir sur scène. Alors, je sais que vous continuez à tourner avec le one-man show que vous n'avez jamais lâché. Mais ici, c'est une pièce de théâtre dont il est question. Alors, je me suis dit, comment faire le pitch? C'est compliqué peut-être. Alors, j'ai délégué un petit jeune qui a fait un petit peu de journal télévisé et qui explique extrêmement bien le pitch de l'histoire.
Bonjour à toutes et à tous. Grand titre de l'actualité, on apprend que les quatre touristes de l'espace dont le voyage a été sponsorisé par un mécène anonyme se sont réveillés ce matin en pleine forme, quelques heures seulement après leur décollage. Les voilà partis pour un périple d'une semaine autour de la Terre. Le milliardaire inconnu a désiré offrir ce voyage de rêve à quatre personnes tirées au sort sur leur numéro de sécurité sociale.
Et c'est ça, le pitch, parce que c'est ça qu'on voit en s'asseyant au théâtre de la Gaîté Montparnasse. C'est Jean-Pierre Pernaut qui nous annonce cette histoire. Il y a quatre personnes qui sont dans l'espace et qui ont été choisies au hasard.
Voilà, tout
à fait.
Mais
il n'y a pas de hasard.
Non, il n'y a pas de hasard. Et justement, pour le découvrir, vous avez tout dit en fait. J'ai plus rien à dire.
Il n'y avait pas mieux pitché que notre ami Pernaut.
C'est-à-dire qu'une fois que Pernaut a dit ça, les gens peuvent se lever et partir.
Ah ben non, ben non, parce que justement, débute ce qu'on peut appeler un vaudeville spatial.
Oui. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant,
avec des portes de vaisseau qui claquent et tout ça.
Non, mais rigolez pas, qui glissent.
Mais, c'est exactement
ça. Ça nous change des pièces de théâtre qu'on voit habituellement à Paris. Dans, oui, parce que dans des salons avec des canapés.
Exactement.
Oui, voilà,
il y a un canapé, cela dit.
Oui, mais, oui, mais c'est pas un canapé comme les autres.
Dans une cellule spatiale.
Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer entre les quatre personnages.
Évidemment, justement. Quatre personnages dont voilà, on découvre au fur et à mesure qu'ils sont peut-être pas là par hasard, y compris vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter ce rôle-là? Vous aviez envie de rejouer avec des camarades?
Oui, tout à fait. Je voulais rejouer sur scène. Et puis surtout, c'est le discours de la metteuse en scène, Axel Marine, qui m'a séduit parce que, en fait, elle m'a demandé, elle m'a pas demandé seulement de faire, elle m'a pas imposé une mise en scène, elle m'a demandé de faire de la direction. Il y avait la direction d'acteur dans son travail. Mmh. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé. C'est que ce n'est pas qu'une metteuse en scène, c'est aussi, parce qu'en général, quand on joue, les metteurs en scène, en général, ils ne font que du placement, beaucoup de placement sur scène, etc. C'est très peu de direction d'acteur. Et elle a insisté sur la direction d'acteur. Et moi, ça m'a permis de travailler mon personnage du début à la fin. Et il s'est trouvé une espèce de cohérence, dans le personnage. C'est la première fois que je travaille avec autant de sérieux, de rigueur, un rôle.
Oui, non, mais c'est vrai qu'à la base, vous étiez quelqu'un d'assez jean-foutiste. C'est ça, vraiment.
Non, mais c'est vrai qu'on
vous avez tendance à bâcler un peu vos rôles, c'est vrai. Hein.
Répondez, Éric, répondez.
J'en ai pas eu beaucoup de rôles, donc.
Mais non, mais c'est ça, pour vous reconstruire, parce que le métier, vous avez un petit peu mis de côté à une époque où il n'y avait pas l'internet pour ressortir par ailleurs, vous avez dû vous-même vous redonner du boulot et remonter sur scène avec ce qui était votre force, le seul en scène.
Oui. Oui, oui, tout à fait, ouais.
Et comment, aujourd'hui, avec le recul de ces années-là, et avec aujourd'hui la façon dont le milieu existe, vous avez un œil sur ce qui est arrivé? Alors,
on peut 30 ans plus tard,
le résumer déjà, en deux mots. C'est-à-dire que vous faites un sketch au César devant Henri Chapier, il est très, très vexé, et vous êtes quasi banni des télévisions françaises.
Pas quasi, carrément. Ouais,
vous êtes banni des télévisions françaises.
Il paraît qu'il se vexait très facilement aussi, mais bon.
Ben, faut croire que oui, oui. Et donc aujourd'hui, avec le recul, 30 ans plus tard, vous vous dites, j'ai pas eu de chance de tomber à cette époque-là, parce que non. Si ça arrive aujourd'hui, Dieudonné, par exemple, a encore tout à fait... Alors, vous n'êtes pas Dieudonné du tout, autant pour moi, mais il a trouvé tout à fait une façon de continuer à exister par des médias parallèles.
Oui, mais alors, moi, j'ai aucun regret par rapport à ce que j'ai fait. Je dirais même que ça m'a permis d'avoir une autre vision du métier. Ça m'a ouvert les yeux, premièrement, sur le métier, parce que je n'avais que l'image que l'on me renvoyait, que la télévision me renvoyait. Je pensais que tout le monde était gentil dans ce métier. Et je me suis rendu compte, en l'espace d'une soirée, que pas du tout. Voilà. Et donc, j'ai pris beaucoup plus de recul. En faisant attention, je mets les pieds. Je me suis reconstruit à partir de ce moment-là. Et puis, aujourd'hui, franchement, je suis beaucoup plus heureux de ce que je fais que de ce que je faisais à l'époque, parce que j'ai regardé encore les imitations que je faisais à l'époque, c'est catastrophique.
Quand vous faites Yannick Noah, c'est très marrant.
C'est marrant parce qu'il y a la caricature et tout. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que je me considère plus comme un caricaturiste que comme un imitateur. Parce que Laurent Gérard, Thierry Lhermitte, ce sont des vrais imitateurs. Moi, j'étais plutôt un caricaturiste. Et quand vous écoutez la voix que je faisais à l'époque de Yannick Noah, c'est juste à chier. Non, franchement.
Un caricaturiste, c'est un imitateur qui est pas assez bon, en fait.
C'est ça. Et voilà, c'est ça.
Même Mobutu, c'était pas terrible, mais on le reconnaissait très bien.
Et voilà qui vous propulse aujourd'hui dans les étoiles, Éric
Blanc. Dans l'espace.
Dans l'espace, en tout cas. Ce qui transpose, c'est vrai qu'au théâtre, placer l'histoire dans l'espace, c'est assez peu commun.
Oui, et vous avez une belle combinaison de...
Ah oui, vous trouvez?
De spationnant.
Bon, ça va pas être possible entre nous.
Je préfère vos deux partenaires de scène. Et d'ailleurs, tout le monde est très bon.
On va les citer. Il y a Axel Marine, qui est aussi co-auteur de la pièce et dans la mise en scène. Il y a Jérôme Benilouze et Valentine Kipp à vos côtés. Éric Blanc, donc dans La tête dans les étoiles, au théâtre de la Gaîté Montparnasse, mardi au vendredi 21h.
Et Jérôme, qui est très connu comme promoteur de la marque Lidl.
Les acteurs de publicité, ce sont des acteurs.
Oui,
c'est vrai. Éric Blanc avec nous jusqu'à 18h.
Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a des cactus. Moi, je me pique de le savoir. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Dans leur cœur, il y a des cactus. Dans leur port, il y a des cactus. Sous leurs pieds, il y a des cactus. Dans leur gilet, il y a des cactus. Aïe, 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 aïe. Pour me défendre dans le cactus, à mon tour j'ai mis des cactus. Dans mon lit, j'ai mis des cactus. Dans mon slip, j'ai mis des cactus.
Brain chante les cactus sur France Inter, où nous sommes en compagnie d'Éric Blanc. Et si Henri Chappé nous écoute, on l'embrasse.
On lui offre deux places pour venir vous voir.
Ah bah oui, pour aller vous voir.
Vous ne l'avez jamais revu ou entendu?
Chappé, si, je l'ai rencontré, oui, une fois, une cérémonie qu'il présidait. Mais il m'a ignoré, bien sûr. Mais c'est pas le seul, hein. Noah me déteste, pareillement.
Vous êtes fait plein d'amis,
bon,
quoi.
Dis donc.
Je pense qu'aujourd'hui, ce sera...
Nous, on aime vous, plutôt. Voilà.
Aujourd'hui, vous aurez moins de problèmes au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, avec la tête dans les étoiles. Autour de la table, pour entourer Éric Blanc, aujourd'hui...
Alors, il me semble avoir vu Thomas VDB.
Et oui.
Isabelle Sorrente aussi,
yes.
Et Christine Gonzalez.
Allez, c'est parti pour la formation.
En tartons, les pompeux, cornichons.
Le journal de presque 17h17.
Globe, 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 globe.
Et on commence par les titres.
On a appris ce matin le décès à 75 ans du maire du Mans, Jean-Claude Boulard.
Une triste nouvelle, puisqu'il ne reste donc qu'un Boulard de gauche en politique, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Un journaliste russe a mis en scène sa propre mort pour le compte des services secrets ukrainiens.
Oui, en France aussi, on a déjà assisté à la mise en scène de la mort d'un journaliste. C'était l'interview d'Emmanuel Macron par Laurent Delahousse.
Est-ce qu'il y aura des brèves ?
Oui, le décès des brèves était une fausse information. Et on commence par la politique française.
Le président de la République écarte l'idée d'un remaniement gouvernemental.
Ouf, bah ce serait trop con de le faire maintenant. On n'a même pas encore eu le temps d'apprendre le nom des ministres. Alors c'est vrai.
Gouvernement toujours, avec deux personnes qui travaillent à Matignon, qui se sont plaintes à BFM TV des conditions de travail difficiles dans les services du Premier ministre.
Eh ben voilà, c'est à cause des milliers de personnes qui appellent pour savoir quel est vraiment le nom du Premier ministre.
Passons à l'Ukraine, qui a donc annoncé avoir mis en scène l'assassinat du journaliste russe Arkady Babchenko, qui est en réalité bien vivant.
Oui, alors que sur CNews, c'est l'inverse. Ils ont des journalistes qui semblent bien vivants, mais qui en fait ne le sont pas entièrement.
Notons au passage qu'hier, c'était l'anniversaire d'Alain Duhamel.
Il est encore vivant.
Ben oui, comme Henri Chapier, en fait. Hein.
Ah, oui. C'est un coup des Ukrainiens, ça, je pense.
Sans transition, santé, un seigneur sur deux ne peut plus marcher ou lever le bras après 75 ans, selon une étude.
Oui, moi, l'idée que Jean-Marie Le Pen ne puisse plus lever le bras droit, ça me réconforte un petit peu sur l'idée que je me fais de la vieillesse.
Culture à présent, Superman souffle ses 80 bougies.
Oui, ce qui signifie qu'il y a 50% de chances qu'il ne puisse plus lever le bras. Et c'est bien emmerdant quand tu es Superman.
Allez, une grosse page football. Alors.
Football, je sais que vous aimez ça, Éric Blanc. J'adore. On va commencer par un drame en Belgique.
Ah, chez nous,
oui. Oui, Charline, notre sélectionneur national a choisi 28 joueurs pour la Russie, mais il n'en faut que 23, comme vous le savez.
Ah,
Charline.
Bah oui, ça, j'allais vous le dire, justement.
Et donc, il y a un gros suspense pour savoir qui seront les 5, qui ne seront pas du voyage. Alors, on imagine qu'aujourd'hui, il ne le sait pas lui-même. Il y a encore les matchs de préparation, les matchs amicaux.
Ouais.
Enfin, on pensait ça jusque ce matin. Écoutez la première.
Eschak Diable Rouge partira en Russie avec un lit sur mesure pour passer des nuits plus tranquilles. Une équipe de la VRT est allée filmer la firme fabricant ces lits. Sauf que sur les images, on ne compte que 23 lits sur mesure et que sur les matelas, on peut lire le nom des joueurs.
Pas de bol trahi par les matelas. C'est pas en France que ça arriverait, non, évidemment.
On est mieux organisé en France, Alex?
Non, pensez... non, c'est que les Bleus, pendant la Coupe du Monde, ils n'ont pas beaucoup l'habitude de dormir dans leur lit. Hashtag Zaya.
L'équipe de France, justement.
L'équipe de France, oui. Vous le savez, ce qui est difficile, c'est de trouver un bon hymne. Alors, beaucoup essaient, mais c'est le stade qui décide. Et quand parfois c'est le stade qui propose, c'est encore mieux contre l'Irlande. Voici ce que les supporters français ont chanté.
Gérard Depardieu.
Sors-nous ta vodka.
On va la gagner chez toi.
C'est beau.
On va la gagner chez toi. Si c'est pas le plus bel hymne.
Allez, terminons par un moment de tristesse, attention.
Oui.
Car Canal Plus a annoncé lors d'un comité d'entreprise l'arrêt définitif des guignols à la fin de la saison.
Et c'est pas en 2020 que Canal Plus perd les droits du foot?
Bah si, mais quel est le rapport avec les guignols de l'info alors?
Oh pardon, ces guignols là, pardon. Non, ouais. Je pensais que vous parliez de Pierre Ménès et Pascal Praud. Désolé,
ah,
autant
oui.
Pour moi. Ouais. Bon, c'est pas une surprise.
Ah non, c'est sûr. Ça revient à annoncer que les électeurs de Jean Tibéri sont morts, quoi.
Oui, c'est son nom.
Vous écoutez France Inter par Jupiter et c'est Éric Blanc qui est en notre compagnie, le comédien qui joue la tête dans les étoiles au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Et on va aborder avec vous ce premier sujet, c'est Zidane qui quitte le Real Madrid. Rendez bien compte que c'est Alex Vizorek qui a choisi ce sujet pour le hisser en ouverture de cette émission.
Je me suis dit que c'était important.
Zizou, 5 jours après avoir remporté une 3e Ligue des Champions, l'entraîneur part comme un prince. Isabelle Sorrente, concentrez-vous, c'est un sujet, je sais,
oui,
vous avez un avis.
Oui.
Et tout cela en créant la surprise, Zidane.
Je me tire, je me demande pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir d'ici.
C'est Maître Gims. Grande tradition dans cette émission lorsque quelqu'un prend la poudre d'escampette.
Non, il ne prend pas la poudre d'escampette.
Oui, non, il
part. Il s'offre une sortie.
Oui. Oui,
voilà, c'est ça.
Très digne.
Éric Blanc, vous aimez le foot, vous
suivez ?
Ah, très bien. Alors c'est la beauté du geste.
Attention, je suis supporter de l'OM, moi.
Ah, d'accord, très bien.
Bah, nous, on est belges.
Nous, on s'en fout.
À moins un Anderlecht OM, on est à l'aise.
Comment vous avez pris cette nouvelle en vous disant « Waouh, quelle classe !» Ou il y a la déception ?
Non, quelle classe. Parce qu'il s'arrête au sommet, voilà, et puis il tire sa révérence.
C'est quelqu'un que vous avez déifié, parce qu'on a un peu ça, cette génération de jeunes Français qui ont vu Zidane jouer. C'est des moments presque d'histoire personnelle pour eux.
Oui, c'est très magique. Chaque fois qu'il touche le ballon, c'est magique. Et surtout, ce que j'apprécie chez cet homme, je ne le connais pas. Mais,
il ne vous aime pas non plus.
Non, je ne le connais pas.
Il nous a appelé, il m'a dit « Si vous recevez Éric Blanc, je ne l'aime pas non plus. »
Je ne vais pas le saquer. Je trouve que c'est un être d'une simplicité extraordinaire, d'une humilité sans pareil. Et c'est un mec qu'on aimerait connaître, quoi, qu'on aimerait avoir pour ami.
Et vous croyez que, effectivement, sa sortie en tant que joueur, ce fameux coup de tête, n'avait pas été à la hauteur de sa carrière ? Est-ce qu'ici, il s'est dit...
Oui,
ouais.
C'est ce que je me suis dit aussi. Il a voulu un petit peu rétablir un petit peu l'équilibre et un petit peu se faire pardonner, entre guillemets, de cette sortie.
Le président de la République 2006. A dit « Je souhaite qu'il puisse jouer un rôle pour le pays ». Comme s'il ne l'avait pas encore fait, enfin. Et il lui souhaite un destin national, alors qu'il a un destin international depuis longtemps. Mais bon, c'est pas grave. Emmanuel Macron donc, a peut-être une idée derrière la tête, quelque chose, un poste à lui donner. Je ne sais pas, vous aimeriez qu'il fasse quoi et qu'il soit où maintenant, Zidane ?
J'aimerais bien qu'il sélectionne l'équipe de France, juste après Didier Deschamps. Qui est très bien à sa place, à mon sens.
C'est probablement ce qui peut se passer.
Oui, ce serait très bien. En plus, c'est un personnage qui rassemble les énergies. Il fédère le public, la nation.
Mais lui qui sort quand même d'avoir entraîné une équipe qui pouvait gagner des grandes compétitions, aller entraîner l'équipe de France, est-ce que c'est pas un peu risqué d'aller prendre une énorme claque ? Parce que, bon, il y a quand même la Belgique, donc on n'est pas...
Bon, on verra.
Je sais que Isabelle Sorrente avait une analyse à faire.
Oh là là, Charline, vous me prenez trop.
Non, mais plaisante, Isabelle.
Au-delà de ça, philosophiquement, sur le moment du départ...
Non, je pense qu'elle n'a rien à foutre.
Non, sur le moment du départ, il y a quelque chose, même en politique, il devrait en prendre de la graine, que parfois il faut savoir partir après une victoire.
Déjà, partir après une défaite surtout, chez les politiques, surtout partir après un mandat, comme les députés, comme ça on n'est pas victime des lobbies.
Voilà.
Ah bah oui,
bravo.
Ça
c'est pas Henri Chapier qui l'aurait fait cette transition.
C'est le moment VVV VDB
de la transition comme on l'aime. Merci Charline. Voilà, comme on disait, moi je veux revenir sur les décisions votées cette semaine par l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi alimentation, donc pour continuer de lutter contre l'interdiction du glyphosate et rebondir donc évidemment sur la formidable intervention de Guillaume Meurice il y a deux jours. Même si je trouve que Guillaume n'a pas tout dit sur la question. C'est dommage, il n'est pas allé au bout du thème de sa chronique, j'ai trouvé. C'est dommage, il y a plein de choses qu'il aurait pu dire.
Par exemple
sur les lobbies, parce que je trouve qu'il y a bien sûr des lobbies très gentils. Bon, ça c'est autre chose, mais par exemple, ça, bon, si tu parles avec Dominique Farrugia et qu'il dit « il y a des lobbies qui sont venus manger dimanche à la maison », c'est sûrement Chantal Lobby. Et elle est gentille, Chantal Lobby, c'est vrai, ça n'a rien à voir, mais elle est... Ou Bill Boll, même, Bill Boll, il est gentil, Bill Boll Lobby. Et voilà, ça c'est autre chose, je pensais que c'était important de... Mais voilà, mais Guillaume évidemment n'a pas traité cet aspect de la question, puisqu'il fait lui-même partie d'un lobby vegan. Je peux dire, quand t'es dans un barbecue et Guillaume Meurice, il vient te voir en disant « Dis donc mon gars, je suis parti d'un lobby vegan, alors cette brochette de poulet, tu la poses tout de suite. » Voilà, je peux vous dire, c'est assez énervant. Mais c'est du lobbying gentil, voilà, qui a pour but de pas faire souffrir les poulets. C'est du lobbying pro-galinacé, tout simplement. C'est les bons lobbies. Et puis, il y a les mauvais lobbies, qui sont là donc pour prolonger le plus longtemps possible leur bon droit à engranger un maximum de tunas, malgré le cri d'alarme poussé l'année dernière par 15 000 scientifiques sur l'état de la planète. Parce qu'eux, ils vont dire « Oui, mais on va quand même continuer de faire des réunions avec des comités, parce que nous, on a trouvé un scientifique qui pense que c'est pas dangereux, le glyphosate. » Alors, lui, c'est qui ? Ben, c'est Jacques. C'est Jacques le scientifique. Voilà. Et, bon, il est très bon en biolo.
Jacques a dit.
Voilà, donc ça, c'est les pas bons lobbies. Donc, je dis directement à des gens qui nous écoutent, si vous avez peut-être un enfant qui vous dit que plus tard il veut être lobbyiste, vérifiez tout de suite qu'il n'a pas une marque de naissance où il y a écrit 666. Peut-être, attention, ça peut être caché, ça peut être caché dans les cheveux. Hein. Et c'est fou parce qu'en fait, des gens en fait qui travaillent dans les lobbies, chez Monsanto, n'importe quoi, en fait, on ne les croise jamais dans la vie. On croise jamais des gens qui disent « Salut, je passe chez Monsanto !» Ben ouais, voilà, c'est vrai. Et c'est vrai que j'avais lu un article là-dessus dans un magazine qui s'appelle Society, et c'est la vérité. Les mecs, ils ont tellement la honte aujourd'hui qu'ils préfèrent mentir quand on leur demande « Tu fais quoi dans la vie ?» Ils sont là « Ben, je travaille dans un magasin. » Voilà, parce qu'ils savent pas quoi dire. Ils n'osent pas dire « Un magasin d'habits, je vends des habits. » Ouais, d'accord, voilà. Ils sont obligés de mentir, évidemment, parce que c'est vrai que quand tu travailles dans une boîte comme ça, évidemment, quand t'as des conversations dans le privé, souvent, tu dois avoir envie de dire « Vas-y, on parle d'autre chose. On parle d'autre chose. On change de sujet. Vas-y, on parle d'autre chose. On parle pas de mon métier, s'il te plaît. » Parce que c'est vrai que c'est quand même un métier avec une conception de l'éthique bien à soi. Hein, on peut se dire que niveau karma, c'est pas gégène, hein, je pense. Quand ton métier, c'est de menacer des gens afin de pouvoir commercialiser des produits qui tuent d'autres gens, je pense qu'on peut dire que si tu es quelqu'un qui se réveille souvent pendant la nuit, c'est normal. Hein, je peux même dire que c'est bien fait pour toi, d'ailleurs. Hein. Parce qu'on se pose comme question, évidemment, c'est pourquoi le président de la République, il empêche pas ça. On se dit, c'est vrai, on sait que le glyphosate, c'est dangereux. Pourquoi le président de la République, il va pas chez BASF ou Bayer Monsanto, il met un grand coup de pied dans le tibia au patron, il dit, t'arrêtes maintenant la chimie, là. T'arrêtes de faire la chimie, le glyphosate annulé. 49-3, mon gars. Pourquoi il fait pas ça? Il pourrait le faire. On sait qu'il est capable de s'énerver. On l'a vu avec les cheminots. Et pourquoi il s'énerve pas contre les lobbies? Ben non, parce que les lobbies, ils sont plus forts qu'on ne le croit. La présidente de Génération Écologie, j'ai vu, elle a carrément dit, Delphine Bateau, que Monsanto, ils parvenaient à avoir accès aux amendements des textes avant les députés. Alors, je vais pas vous mentir, parce que Monsanto, ils ont même réussi à se procurer le texte de Macronie avant que je la lise aujourd'hui. Texte qu'heureusement, j'ai réussi à récupérer au dernier moment grâce à mon beau-frère qui travaille au FBI. Voilà, donc, j'avais quand même une chose à proposer, moi, aux gens qui travaillent peut-être dans les lobbies et qui nous écoutent. Alors, si vous allez me dire, c'est peut-être un peu radical et tout, mais je pensais, je me disais, admettons, si vous vous suicidez, je me dis, alors ça sonne peut-être un peu fort de café, mais si vous vous suicidez, parce que comme ça, se voit que vous avez envie d'en finir vite. Je me dis, si vous suicidez, nous, on pourra pas mourir à cause de vous, vu que vous serez déjà mort. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Je me dis, comme ça, au moins, nous, on reste, vous, vous suicidez, et comme ça, on peut manger des vraies tomates. Merci à tous, bonne journée.
Alors,
merci, Thomas BDB. What's Chasing You, le choix musical de Djoubaka, car vous êtes sur France Inter par Jupiter, avec sa fameuse playlist. Et c'est Éric Blanc qui est en notre compagnie, qu'on a plaisir à retrouver et que vous pouvez voir au Théâtre de la Gaîté Montparnasse dans La Tête dans les Étoiles, une pièce d'Axel Marine et Catherine Boer. Et à côté de vous, Éric Blanc, elle nous vient de Suisse.
C'est Christine Gonzalez.
Cette semaine, Simone Veil a été honorée à Paris. L'icône de la réconciliation européenne et de la lutte pour les droits des femmes a désormais une place et une station de métro à son nom dans le 8e arrondissement. Et là-haut, dans l'au-delà, ben, ça fait des jaloux. Yves Montand, oui, par exemple, est très vexé. On va entrer en contact avec lui. Yves Montand, cette nouvelle ne vous réjouit pas?
Non.
Vous n'êtes pas content que Simone Veil ait sa station de métro?
Ah, je ne veux pas parler de Simone.
Vous ne voulez pas parler de Simone? mais du fait que vous n'ayez pas une station de métro à votre nom.
C'est consternant.
Mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire?
Alors si vous me dites, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On ne fait rien. Mais si, il y a toujours possibilité de faire.
Oui, mais c'est compliqué, il y a énormément d'étapes, il y a une étude de nom qui est lancée à l'interne à la RATP, il y a des demandes de certains élus, des comités, ça prend énormément de temps, on ne peut pas faire ça comme ça.
Ah, on ne peut pas.
Regardez Serge Gainsbourg, lui, ça fait 5 ans qu'on lui promet une station de métro à la mairie des Lilas, c'est vrai, non, Serge Gainsbourg?
That's right.
Et vous patientez.
Je suis blindé.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Yves Montand pour qu'il se calme un peu?
C'est un enculé.
Je pense pas que ça va le calmer, ça.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez, c'est pas possible.
Écoutez Yves Montand, je vais vous présenter quelqu'un qui est très célèbre. Très très célèbre et qui n'a pas de station de métro à son nom, c'est Dalida.
Oui,
ah ben... oui Dalida, est-ce que je vous dérange?
Non, pas du tout.
Comment vous sentez-vous?
Morte.
J'aimerais recueillir votre témoignage pour démontrer à Yves Montand qu'on peut durer dans la mort sans avoir de station de métro à son nom. Ça vous a rien fait à vous de pas en avoir? Ça vous a pas vexé?
Et je l'étais, et puis maintenant je le suis beaucoup moins, car finalement on finit par s'habituer à tout.
Et puis vous avez une place à votre nom à Montmartre, ça c'est pas rien.
C'est vrai.
Et il y a même une statue de vous.
Mais c'est merveilleux.
Voilà. Vous êtes quelqu'un de simple, vous.
C'est vrai, je suis quelqu'un, finalement, je suis un peu... Le mot, il me manque.
Humble.
Voilà, vous avez trouvé exactement le mot.
Voilà. Yves Montand, vous devriez prendre exemple sur Dalida. Puis, vous aussi, vous avez votre statue.
Non, vous plaisantez, là.
Si, vous avez votre statue à Marseille, place Jean Jaurès. Bon, elle est petite, mais c'est une statue quand même. Hein.
C'est consternant.
Enfin, c'est un buste, c'est déjà ça. Vous savez, je connais plein de morts qui rêveraient d'avoir une statue. Tenez, par exemple, Lolo Ferrari. Ça fait des années qu'elle milite pour avoir un buste d'elle.
On ne sait jamais.
Non, c'est pas possible, ça. Hein. Enfin, Lolo Ferrari, vous le savez, vous, que c'est pas possible, un buste depuis le temps. Vous avez renoncé à cette idée, je suppose.
Non, jamais.
Ah non? Mais comment vous dire? Vous avez peut-être un peu trop de...
Cette image-là me poursuit tout le temps et j'aime pas du tout.
Mais c'est plus qu'une image, enfin, comment vous dire? Une statue, elle doit pas être sexualisée, vos seins,
Mais pour moi, c'était pas sexuel, c'était quelque chose de... qui me faisait un garde-fou, qui me remplaçait l'enfance que j'avais pas eue. Pour moi, c'était un garde-fou contre la vie.
Vos seins, un garde-fou?
C'est la mère, parce que quand on lit Freud, les seins, c'est la mère, la maternité, le lait.
Je vois.
Je me sens pas complètement à l'aise.
Non, mais moi non plus, je suis pas à l'aise non plus. Revenons à vous. J'essaie de vous démontrer que c'est pas grave de pas avoir de station de métro à votre nom.
C'est une erreur.
Mais est-ce que vous avez pensé à une chose? Écoutez-moi bien. Si on faisait une station de métro à votre nom, c'est Anne Hidalgo qui va vous inaugurer. Vous avez pensé à ça? Yves Montand? Yves Montand.
Pardon.
Oui. Donc vous vous rendez compte aussi qu'il y aura une cérémonie avec, je ne sais pas, Kenji Girac qui va chanter à bicyclette.
J'aime pas ça.
Ah ben voilà. Alors je vous repose la question. Est-ce que c'est si grave que ça de ne pas avoir de station de métro à votre nom?
Non.
Voilà. Donc vous retirez tout ce que vous avez dit?
Oui. Quand on nous a trompés, il faut avoir l'honnêteté de dire on s'est trompé.
Voilà, affaire réglée maintenant. Ça suffit les jalousies. On retourne dans l'au-delà. Allez hop.
Merci Christine Gonzalez qui pacifie donc les relations dans l'au-delà. C'est la casque bleue, t'es mort un petit peu. Merci Christine Gonzalez, puis comme elle vient de Suisse, tout est tellement cohérent, c'est dingue. Nous sommes toujours en compagnie de Thomas VDB, de Isabelle Sorande qu'on va entendre tout à l'heure, et Alex Vizorek et notre invité Éric Blanc. Et on va aborder ce sujet avec vous qui touche d'ailleurs votre pays natal. Le Bénin réclame une fois de plus à la France la restitution des œuvres de son patrimoine, et notamment les statues ramenées par des généraux français après la conquête du Dahomey et qui trônent désormais au musée Branly. Il y a à peu près plus de 90% des chefs-d'œuvre africains qui seraient dispersés dans le monde, d'après le Figaro. Les œuvres ont été parfois volées par les Français, parfois elles ont été troquées ou achetées à l'époque, comme nous l'indique ce document.
C'est combien la statue là?
Le masque?
30 000 francs.
Elle est bien, j'ai envie de la prendre.
Attends, je vais te la marchander. Tu l'as fait à combien la statue?
J'ai dit 30 000.
Oh, dis, tu nous vois venir là. Ça vaut 15 000 francs, ça?
Non, 30 000.
20 000 francs.
Non, 30 000.
25 000.
Non, 30 000.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000.
C'est les bronzés, évidemment. On ne s'en lasse pas, hein, cet extrait, c'est certain. Alors, il s'agit de trônes, de portes de bois gravées, de sceptres royaux. Il y aurait entre 4500 et 6000 objets en France, selon les autorités béninoises, qui avaient déjà d'ailleurs formulé cette demande de retour en 2016 et qui avait été sèchement refusée par Paris. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut restituer ces œuvres et jusqu'où aller dans ces cas-là, oui.
À partir du moment où elles ont été volées, il faut les restituer. Et puis, ça nous permettrait, ça donnerait une identité à notre pays. Et puis, restituer toutes les œuvres qui sont un petit peu dispersées dans le monde, ça ferait du bien à l'Afrique en général, oui, tout à fait. Ouais.
D'ailleurs, ça ne touche pas que les Africains. Il y a aussi, par exemple, les Grecs qui réclament une frise du Parthénon aux Britanniques. Et c'est la page People, c'est d'ailleurs la femme de George Clooney, Amal, l'avocate dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs.
Clooney.
Bien sûr, Amal Clooney, ouais, c'est vrai. Je voulais donner le nom de jeune fille par militantisme féministe qui s'en occupe. Emmanuel Macron, ici aussi, intervient, et surtout les sujets, hein, Zidane, les retours des œuvres au Bénin et partout. Mais c'est vrai que quand il est allé...
Par contre, Zidane au Bénin, ça c'est ok.
Non, par contre, on a une momie qui s'appelle Gérard Collomb qu'on peut éventuellement mettre dans un musée. Mais sinon, Macron dit d'ici 5 ans, je voudrais que les conditions soient réunies pour un retour du patrimoine africain à l'Afrique. Est-ce que si vous pensez qu'il peut en faire une priorité, vous miseriez sur lui pour faire bouger un peu les choses?
J'espère que c'est pas une stratégie, un calcul de sa part. J'espère qu'il est sincère. Mais ça aurait dû être fait depuis très longtemps. Oui. Donc
ça a l'air d'être un sacré boulot, hein, vu le nombre de pièces qui sont éparpillées partout dans le monde.
Ouais, les répertorier. Ouais. Après, il faut savoir si elles ont été volées, si elles ont. Est-ce qu'il faut faire intervenir la justice, enfin tout l'aspect juridique, etc. Ça ne m'a pas l'air, pas l'air très très facile.
Il y a un enjeu aussi pour les musées en Afrique et de pouvoir.
Mais oui, redonner une identité à chaque Africain qui ne connaît pas son histoire en fait, puisqu'il la connaît à travers la colonisation et ce que les Blancs ont voulu dire. Donc,
je rappelle que l'homme africain n'est pas assez rentré dedans dans l'histoire, vous rappelez, hein, ça c'est Nicolas Sarkozy qui l'a dit. Oui. Hein, ça c'est... une réaction éventuellement
sur
ce sujet.
Moi je trouve, Isabelle, qu'en attendant de les rendre, ce qui paraît tout à fait normal, parce qu'imaginez que le penseur de Rodin soit, je sais pas, à Bruxelles, on ne serait pas content. Hein.
On a la mort de Marat.
Voilà, il faut nous la rendre aussi, ça.
J'y vais sous quelques...
Il n'y a pas que la France qui est concernée.
Il pourrait commencer par changer les légendes, parce qu'on a sous des statues du royaume du Dahomey, dont du général Dodds. Ouais. C'est pas normal, ça prendrait deux secondes de commencer par changer ça. Je trouve que c'est un petit déni de l'histoire.
Et en tout cas, les experts européens ont longtemps argué que les conditions de conservation et de sécurité dans les musées africains n'étaient pas adéquates. Peut-être une réaction à cet argument.
Non, mais ça me laisse perplexe.
Juste un peu paternaliste.
En fait, vous pouvez les faire, mais les conserver, non. En fait, ça, il faut que ce soit...
Mais vous ne savez pas les apprécier.
C'est ça. Les faire, oui, les garder, non.
Voilà pour ce sujet avec Éric Blanc et à votre côté, Isabelle Sorande, donc.
Oui, alors les jours rallongent, le soleil brille, c'est le moment, pensez-vous, de prendre un verre en terrasse? Eh bien non. C'est le moment de dire, ok Google, où pourrais-je prendre un verre en terrasse? Et là, Google, avec son sens de la répartie habituelle, avec son omniscience, vous donne le nom de la terrasse la plus proche. Il y a des publicités pour ça en ce moment dans le métro. De belles publicités, de bien belles publicités, Alex. Belles comme une présentation PowerPoint, où on voit le sigle de Google, la phrase « Ok Google, où pourrais-je prendre un verre en terrasse ?» et le nom de la terrasse. Google est la bonne fée qui exauce tous vos vœux. Avant, on demandait son chemin à des gens dans la rue. Avant. Hein, parce qu'on est vieux. On leur disait « Pardon, est-ce que vous connaissez une terrasse dans le quartier ? Bientôt, il faudra attendre que notre portable n'ait plus de batterie pour justifier ce besoin répugnant, névrotique, irrationnel, de demander quelque chose à un inconnu plutôt qu'à son propre téléphone. » faut aussi saluer la subtilité des communicants qui ont pensé la phrase d'accroche. Ok Google, que nous autres Français traduisons avec naïveté et candeur par « dit Google ». Parce que « ok Google », ça veut quand même dire « d'accord Google ». Oui Google, bien Google. Ça n'est pas rien le consentement, hein, on le sait. Ça n'est pas rien de dire « oui, bien, ok ». Nous traduisons ça par « dit Google », ce qui est presque pire. « Dis papa, quand est-ce qu'on arrive ?»« Dis maman, je peux avoir un bonbon ?»« Dis Google, je peux aller prendre un verre ?» Alors, si tout cela vous coupe l'envie de prendre un verre en terrasse, il ne vous reste plus qu'à relire « La condition de l'homme moderne » de Hannah Arendt. Hein. Ah. Oui, la condition de l'homme moderne, alors que le climat se réchauffe, c'est le bon moment pour la relire. Pour vous replonger dans cette magnifique réflexion sur notre lien à la technologie, au travail et au langage. Ce qui est fascinant et qui a rapport, en fait, ce n'était pas fait exprès, mais avec la pièce de notre invité, c'est que Hannah Arendt a écrit ce livre en 1958, quelques mois après le lancement du premier satellite autour de la Terre. Pour Arendt, ce satellite signifiait bien sûr une prouesse technologique, mais aussi une illusion. L'illusion, c'était d'imaginer que nous pourrions un jour vivre ailleurs, que nous pourrions un jour nous envoler à tire-d'aile et quitter la Terre après avoir rendu son atmosphère irrespirable. Hannah Arendt écrit donc La condition de l'homme moderne en 1958, 60 ans plus tard. Ce n'est plus un, mais 2600 satellites qui tournent en orbite autour de la Terre, sans compter les déchets en tout genre qui traînent dans l'espace. Des objets petits et grands qui peuvent percuter les stations spatiales et générer la mise en orbite de nouveaux débris, c'est merveilleux. Alors soyez rassurés, hein, il y a des projets de vaisseaux de ramassage de ces ordures. Des camions de poubelle cosmiques, si j'ose dire, sont aujourd'hui à l'étude. Donc la gestion des déchets, qu'ils soient terrestres, sous-marins ou spatiaux, eh bien c'est en passe de devenir le premier métier de l'homme moderne. L'autre inquiétude de Arendt, c'était bien sûr que le langage soit peu à peu remplacé par une langue technocratique qui ne puisse plus permettre les prises de conscience ni exprimer les émotions. Mais il reste toujours aux gestionnaires de déchets la possibilité d'inventer des mots. Comme plogging, un mot dérivé de jogging et du suédois plocka up, qui signifie ramasser. Le plogging, c'est un sport solidaire qui consiste à courir dans les rues avec un sac à dos et des gants en caoutchouc pour ramasser les déchets laissés par ses semblables. Ok Google, si nous allions prendre un verre en terrasse.
Merci Isabelle Sorrente.
Moi ça m'inspire et j'ai envie de dire, dis Google, est-ce que tu me commandes La condition humaine de Hannah Arendt sur Amazon?
Suspense.
Eh oui,
alors,
c'est ça qui est horrible.
Qu'est-ce qu'il dit?
Bah il va sans doute le faire.
Il va dire non Alex.
C'est ça qui est horrible.
Non. Il va le faire?
Il va dire non, j'ai écouté la chronique d'Isabelle Sorrente.
Puisque c'est ça, je suis vexée. Ouais. Dis Grand Schtroumpf, c'est encore loin 18h? Non, non, plus très loin, mais Eric Blanc est avec nous et on va aborder ce dernier sujet en compagnie de Thomas VDB, Christine Gonzalez, Alex et Isabelle Sorrente. C'est un sujet sur lequel Emmanuel Macron n'a pas donné son avis, donc on est un peu embêtés. Mais on va le faire quand même. Sujet puisé dans Marianne qui sort aujourd'hui. Les humoristes étrangers sont nombreux en France à railler votre avers. On s'extrait du sujet et vous en redemandez. Donc vous êtes bien maso. Il y a l'Américain Sébastien Marx, la Suisse Marina Rollman, le Canadien Sugar Sammy entre autres. Et puis le Belge aussi, il y en a pas mal,
hein, ouais,
qui se venge de 30 ans de blagues de Coluche sur les Belges bien sûr. Et puis le roi des Belges aussi.
C'est pourquoi les Français adorent les blagues belges?
Non.
Parce qu'ils rient trois fois.
Oui, oui, oui.
Ils rient quand on leur raconte, ils rient quand on leur explique, et ils rient quand ils la comprennent.
Elle est bonne, j'adore. Elle est très bonne, c'est la meilleure. Rien à déclarer, le film de Danny Boone. Alors, première question. Est-ce que vous pensez, Eric Blanc, vous qui êtes humoriste et comédien, s'il y a autant d'humoristes étrangers en France qui raillent le pays, qui raillent les Français, est-ce que ça veut dire que les Français, c'est une bonne matière à rigolade, vous qui êtes
oui,
français?
Oui, mais je pense que tout est matière à rigolade. Et à partir du moment où on a du recul par rapport à soi, la base de l'humour, c'est l'autodérision, pour moi. Et d'ailleurs, Paul Léoto le disait déjà. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, oui, en France, oui. Et c'est ce que faisait déjà la grande tradition au XVIIIe siècle, déjà, quand Montesquieu, il dépeint...
oui, dans les lettres...
Les lettres personnes.
Les personnes, déjà, ouais.
Bon, c'est pas spécialement rigolo, mais on peut rire sur le décalage entre le Perse et... enfin, les coutumes perses, ouais. Et puis le Royaume de France.
C'est comme ça que vous avez commencé, vous, à railler un peu vos contemporains quand vous êtes monté sur scène. Vous êtes monté sur scène très très jeune.
Oui, tout à fait, oui. Oui, mes contemporains, mes congénères aussi. Et lorsque je suis arrivé arrivé en France, mon premier spectacle, c'était le décalage justement entre ce que je percevais de la France au Bénin et puis ce que j'ai vécu ici.
Et est-ce que ça a évolué, vous croyez, en 30 ans, le regard le lien aux Français et à l'autodérision? C'est-à-dire que, est-ce qu'il a plus d'autodérision aujourd'hui?
Non, je ne trouve pas. Au contraire, on devient de plus en plus susceptible, de plus en plus crispé. Ouais.
Et avec votre double culture, vous avez aussi la double nationalité toujours?
Non, pas du tout.
Mais en tout cas, une double culture.
La nationalité française. Ouais. Ouais.
Une double culture, ça vous donne, un demi-recul sur chacune des cultures ou pas?
Oui, tout
ça
à fait.
Ça permet de jouer sur deux tableaux.
Non, mais ce qui est bien, c'est que, en fait, moi, lorsque j'étais au Bénin, j'étais élevé, j'avais une éducation française. Donc, j'étais plutôt privilégié. Et c'est ce qui est très intéressant, justement, c'est mon voyage en France, qui est assez paradoxal aussi, qui m'a permis de retourner de faire un voyage spirituel vers mon pays, vers mes racines. Donc il a fallu que je vienne en France pour apprendre mon histoire, en fait. C'est extraordinaire.
Et ça ramène au sujet 2.
Ah bah dites donc oui. Mais non, c'est presque trop cohérent cette émission, oui. Si vous voulez.
Allez, on revient au sujet numéro 2.
Une réaction peut-être, je bois autour de la table. Vous en tant que Suisse, Christine Gonzalez.
Moi j'ai pas l'impression du tout que les Français soient plus crispés, qu'ils aient de moins en moins le sens de l'autodérision. La preuve justement par le succès de ces humoristes étrangers qui viennent, les Français, les Suisses.
Ce sont les humoristes. Belges. Je parle pas des humoristes, je parle de.
Oui, mais le Français aime se faire taper dessus parce que c'est lui qui donne le succès à ces humoristes qui viennent de l'étranger se foutent de sa gueule. Moi, je peux vous assurer qu'en Suisse, si un Français venait se foutre de la gueule des Suisses, ça passerait pas du tout et il n'y aurait aucun succès. Donc, ouais, le Français, vrai. Je trouve qu'il aime ça, il rit volontiers. Et puis, voilà, c'est un public d'ailleurs.
Thomas VDB, vous faire piquer le boulot
Non, mais moi, je trouve cette bonne guerre quand même de se faire attaquer sur tous les défauts. Il y en a quand même pas mal. Si on regarde les travers français, les Français sont râleurs et tout, machin. Oui, c'est quand même vrai. Donc, évidemment, moi, j'en ai vu pas mal dans les comédiens dont vous parliez à l'instant, Charline, de traiter le sujet des Français, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Je trouve qu'en général, ils sont assez inspirés et c'est assez marrant, quoi.
Éric Blanc avec nous, et derrière vous, qui a surgi dans ce studio?
Figurez-vous qu'on s'est rencontré avec Frédéric Fromet au Caveau de la République, qui est un endroit que vous connaissez bien. Eh bien, il a pris sa guitare et maintenant, on le séquestre tous les vendredis pour nous chanter la chanson de la semaine. De quoi allez-vous nous chanter, Fred Fromet?
Eh bien, un thème qui, j'espère, va vous emballer. Je vais vous parler du plastique. Le plastique, c'est pas fantastique. Le caoutchouc, c'est relou. Qu'il soit mou ou qu'il soit dur, le plastique est une ordure. Burk, burk, dérivé du pétrole, dans l'eau, dans l'air et dans nos assiettes. Demain, ça m'étonnerait qu'on rigole quand on aura tout niqué la planète. Étrangler les tortues, les poissons, étouffer les dauphins, les oiseaux. Est-ce qu'on nous prendrait pas pour des cons quand du plastique emballe le bio? Déjà que le tofu c'est pas bon. Le plastique c'est pas fantastique. Le caoutchouc c'est relou. Qu'il soit mou ou qu'il soit dur, le plastique est une ordure. Beurre, beurre, acrylique et nylon, cellophane et polyester, on n'est jamais à court d'invention. Quand il s'agit de saloper la terre, on consomme toujours plus et on court à notre fin de manière tragique. C'est pourquoi j'ai toujours été pour une solution purement pragmatique. La peine de mort pour les profs d'art plastique. Car le plastique, c'est pas fantastique. Le caoutchouc, c'est relou. Qu'il soit mou ou qu'il soit dur, le plastique est une ordure. Le secteur de la distribution, champion des emballages inutiles, on serait à court de munitions s'il fallait emballer ces gros débiles. Il est temps de passer à l'attaque. Monsieur pollueur, t'es méchant nananère. Si tu continues, c'est nous qu'on te sac. Pas en plastique, je crois que c'est clair. Pom 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 pom, nique ton polymère. Car le plastique, c'est pas fantastique. Le caoutchouc, c'est relou. Qu'il soit mou ou qu'il soit dur, le plastique est une ordure. Bientôt dans les océans, il y aura plus de débris plastiques que de poissons, il devient urgent de prendre des mesures drastiques, utiliser du verre, du carton, en tout cas de meilleurs contenants, et procéder à l'élimination du chanteur plastique Bertrand, même s'il n'est déjà plus très vivant. Le plastique, c'est pas fantastique, le caoutchouc, c'est relou, qu'il soit mou ou qu'il soit dur, le plastique est une ordure.
Wow. Merci. Merci Frédéric Fromet sur ce tube de Elmer Footbeat.
Exactement. Ouais.
Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à Eric Blanc qui a été notre invité pendant une heure. Merci à vous. C'était un plaisir de vous retrouver et on peut vous voir donc au Théâtre de la Gaîté Montparnasse dans La Tête dans les Étoiles d'Axel Marine et Catherine Bauer. Mise en scène Axel Marine. Vous jouez avec, c'est votre partenaire, ainsi que Jérôme Benilouz, Valentine Kip et un petit peu Jean-Pierre Pernaut au début, si j'ai bien compris.
Un petit peu André Dussolier aussi, mais ça, je ne vous en dis pas plus.
Ça, trois petits points. Théâtre de la Gaîté Montparnasse, donc, pour ceux qui ont la chance de venir à Paris ou de voir. Peut-être en tournée plus tard, c'est prévu ou pas pour la France ?
Pour l'instant, non.
Pour l'instant, non.
On fait Paris et puis on...
Souhaitons que ce soit possible et que tout le monde puisse vous voir. Merci beaucoup à l'équipe, à la technique Nicolas Cazot, à la réalisation Anne-Sophie Ladonne. Merci beaucoup à la préparation à Nathalie Romero, à Sarah Masson, Mathilde Verfailly, Mathias Volant, notre stagiaire, Antoine Asdé, Frédéric Fromet pour les blagounettes. Et puis on va se retrouver lundi avec Bernie Bonvoisin, fondateur de Trust. Et puis le mot de la fin, on va le laisser à Yves Montand qui depuis là-haut écoute notre émission, n'est-ce pas?
C'est démagogue d'une façon insupportable.